en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Comment qualifier, décrire l'écriture dans l'espace du sculpteur Pierre-Édouard ? Indépendant, peintre, pastelliste, graveur, Pierre-Édouard a opté principalement depuis ses 20 dernières années pour la sculpture. Son œuvre dit le temps long de l'enveloppe corporelle, sans commencement, sans fin, un corps universel, primordial, originel, désincarné. Pierre-Édouard voit le fragment comme une totalité. C'est peut-être ce que ces sculptures nous apprennent à voir. Des fragments de corps humain pour lesquels la limite du fragment n'est pas une rupture ou une déchirure. On voit que les doigts du sculpteur ont modelé une frontière invisible entre ce qu'on voit et ce qu'on imagine. Une tête penchée, un homme à terre, une femme à l'échelle, Ève, voici énoncées quelques-unes des séries qu'il a réalisées, certaines pendant plusieurs années. Ces fragments de corps en torsion et en tension semblent naître de l'espace, surgis du vide comme par magie. Ces sculptures semblent en apesanteur, en point d'appui inattendu. Pierre-Édouard, je vous ai présenté comme sculpteur, mais j'aurais pu vous présenter comme peintre. Vous êtes né dans une famille d'artistes, votre père était un artiste, un peintre. Comment s'est déroulé votre apprentissage des arts ?
Donc mon père était peintre. Quand je suis né, il était encore abstrait. Plus tard, il est redevenu figuratif. Le monde que j'ai vu des arts quand j'avais 9-10 ans, c'était son œuvre à lui et puis tous les peintres des années 50 qui étaient ses amis. Donc si vous voulez, moi j'ai avant tout connu l'art contemporain. C'est-à-dire que ça a vraiment été ma nourriture, cette peinture abstraite, cette peinture lyrique. Parce que ce n'était pas une peinture géométrique, c'était une peinture lyrique. C'est ce qu'on appelle l'abstraction lyrique, hein, tout bêtement. Et ça a été vraiment mon apprentissage. Alors, je ne le regrette pas du tout, d'ailleurs, parce que tous ces peintres ne dessinaient pas. Tous ces peintres avaient complètement abandonné ces notions du dessin, de la proportion, du dessin d'après-nature. Ça n'existait pas. Ce sont des notions qui n'existaient plus du tout pour eux. Et cet apprentissage, pour moi, est très, très important. Parce que, si vous voulez, au lieu de me brancher sur cette chose complètement idiote qu'on appelle apprendre à dessiner, ils m'ont appris l'existence de l'espace.
Vous dites dans le discours que j'ai appris que ce n'est pas avec les yeux qu'on l'on dessine.
Mais voilà, effectivement. Bien sûr, d'ailleurs, je me souviens, il y a un ami de mon père qui me disait on peut peindre les yeux fermés, bien sûr. Bien sûr que ce n'est pas avec les yeux. Un grand peintre ne peint jamais avec les yeux. Les yeux n'aboutissent qu'à faire du décoratif. C'est avec autre chose qu'on dessine ou qu'on peint. Ce n'est pas visuel, c'est jamais ni visuel ni manuel. Donc ça, effectivement, ils me l'ont appris. J'ai même débuté, moi, par cet apprentissage-là. Et donc c'était pour moi quelque chose de très important, cette sensation de ce que c'est que l'espace, de ce que c'est que la vibration de l'espace, et surtout de savoir que si on arrive sur la toile, ou sur le papier, ou sur je ne sais quoi, à avoir cette vibration intérieure qu'on a en soi, alors la peinture devient intéressante. Ça a été mon premier apprentissage. Et après, évidemment, je me suis passionné pour la peinture. Et puis j'ai remonté toute l'histoire de la peinture. Donc je me suis mis à aller au musée quand j'avais 15-16 ans. Et donc j'ai découvert ce que
Quelles
c'était.
Quelles étaient vos premières passions picturales, enfin, en dehors de cet environnement familial ?
Ah ben, une de mes toutes premières passions a été Van Gogh. Ça m'a beaucoup marqué, Van Gogh. Une chose qui m'a passionné, c'est l'Arc-Mer. L'Arc-Mer, alors je comprends maintenant pourquoi ça m'a passionné. Parce que quand j'étais petit, moi j'ai été voir au musée Guimet, il y avait encore la grande salle avec tous les Bouddhas les uns derrière les autres, qui était magnifique, qu'ils ont démoli, qui était extraordinaire cette salle, il y avait tous les Bouddhas. Donc j'ai découvert ça. Alors c'était très neuf pour moi, et puis je trouvais ça pas beau du tout, je trouvais ça très moche, parce que j'étais pas habitué, quand on connaît pas quelque chose, on trouve ça moche. Et donc, j'aimais pas ça. Et pourtant, j'ai regardé ça et je me suis dit, mais c'est sûrement par là que passe ma voix. C'est sûrement très important pour moi, ça. Je sais pas pourquoi. Et je le comprends maintenant, pourquoi j'ai dit ça. Parce qu'effectivement, tous les paramètres de la sculpture khmer sont fondamentaux pour moi. C'est-à-dire cette courbe qui passe partout, qui n'a jamais ni d'horizontale ni de verticale, qui est dans une tension absolument extrême. Et alors, je faisais un parallèle, justement, au départ. Je retrouvais la tension khmer chez Brancusi. dans l'Oiseau de Brancusi, dans tout ça. Et tout ça me passionnait. Et puis après, moi, j'ai découvert une des choses qui m'a le plus marqué, c'est sans doute Léonard. Parce que Léonard, j'en suis encore persuadé aujourd'hui, c'est le seul peintre qui ait découvert une chose qui n'a jamais été réemployée par personne après, qui est le modelé, une sorte de modelé ininterrompu. C'est-à-dire, si vous voulez, ce que Bach a fait dans la musique, Léonard l'a fait dans la peinture. C'est-à-dire que sa peinture, son modelé commence à un bout de la toile, il finit à l'autre. Il est sans arrêt ininterrompu. C'est-à-dire que le paysage, vous avez la Sainte-Anne au Louvre, le paysage avec les petites montagnes, il va passer dans la tête de la Sainte-Anne, il va se modeler à l'intérieur de la Sainte-Anne. De l'autre côté, on va ressortir, on aura encore un paysage. Dessous, vous avez les robes. C'est la même chose qui bouge, qui n'arrête pas de bouger. Dans la tête du bébé, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est un monde en soi qui se densifie ou qui se dilue, mais qui est comme un seul organisme qui est fondamentalement musical et qui se redivise à l'infini en plus. Parce que si vous faites, vous savez, comme on voit sur les photos de la Joconde, vous avez les lèvres ou tout ça, ou le sourire, vous avez encore une peinture infinie là-dedans. Parce que le modelé, il est infini partout. Il bouge imperceptiblement tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, cette manière de faire de Léonard, c'est une chose qui m'appartient, parce que j'essaye de faire ça avec la sculpture aussi, avec le dessin, cette chose qui ne va jamais bouger. Et je pense que, l'air de rien, je pense que Michel-Ange, dans les sculptures des esclaves qui sont inachevées, qui sont à Florence, on se demande toujours s'il les a laissées inachevées, s'il le désirait ou c'est simplement parce qu'il n'a pas eu le temps de les finir. Mais on oublie que tous les derniers dessins de Michel-Ange, ils ont ce même tremblé. Les crucifix de la fin, la dernière série de dessins, ils ont le même tremblé que ces sculptures. Et je pense au fond que Michel-Ange, il a voulu retranscrire dans la sculpture ce que Léonard avait inventé, c'est-à-dire cet abord du monde plastique entièrement par le modelé, par la densification du modelé. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de ligne. Il n'y a plus jamais de ligne.
C'est le modelé qui l'emporte.
C'est du modelé d'un bout à l'autre, sans rupture. Et j'ai jamais vu un autre tableau, parce que c'est pas le clair-obscur. Parce que Rembrandt, qui est clair-obscur, n'est pas dans un modelé ininterrompu. Il est dans une surface et tout d'un coup, il ouvre une brèche avec une sorte de modelé. Bon, Caravage aussi. C'est pas du tout... Léonard, c'est le seul. Et personne ne l'a fait, jamais. Personne n'a continué cette pensée.
Vous reprenez un peu ce flambeau-là?
Non, c'est pas que je le reprends. C'est que je pense que c'est un des abords plastique, c'est pas pour ça que je le reprends d'ailleurs, c'est parce que je l'aime, tout simplement. Mais je pense que c'est une chose qui n'est pas suivie finalement, qui n'a pas été poussée, qui moi m'intéresse. Qui n'est pas loin d'ailleurs, si on y réfléchit bien, de la découverte de Cézanne. Sauf que Cézanne le fait par des plans colorés. Mais c'est pas loin finalement.
Vous avez été repéré très très tôt par le marchand d'art Claude Bernard, par le milieu, vous avez exposé assez rapidement. Est-ce que ça a été une chance?
Ah bah bien sûr, ça a été une chance, parce que ça m'a permis de pouvoir continuer sans avoir à faire un autre métier pour survivre.
Vous avez rencontré d'autres artistes, oui, à cette occasion, en dehors du milieu familial. Est-ce que les influences de ces rencontres ont modifié ces recherches?
Du tout, du tout. Non,
non,
du tout.
Vous êtes très indépendant.
Et vous savez, c'est même pas indépendant ou pas. Ce qu'on fait, on ne peut pas ne pas le faire. Je ne sais pas comment dire, on ne le choisit pas. C'est une chose qui s'impose et on n'a qu'à le suivre. Il faut le suivre. C'est une chose qui est donnée, qui s'offre. Et on n'a pas le choix tellement. Enfin, moi, j'ai toujours ressenti ça, il n'y a pas tellement le choix. Chaque fois qu'on essaye d'affirmer autre chose en se disant, par exemple, « Ah, mais je fais ça, mais je devrais faire autrement », on l'essaye, c'est un échec. Un des grands problèmes, enfin, moi, ce que je perçois comme un des grands problèmes, comme le vrai problème de la maturation ou du développement d'un artiste dans le temps, le véritable problème, c'est qu'il arrive à cerner qu'est-ce qui est véritablement son propre terrain à lui. Quel est vraiment ce qu'il est? C'est d'arriver à savoir ce qu'il est. Non pas ce qu'il croit. Voilà, la question, c'est non pas de faire ce que l'on croit qui est bien, ce que l'on pense que l'on devrait, mais d'arriver à faire exactement ce que l'on est fait pour faire. Je crois que ce qu'on appelle le cheminement d'un artiste, ça ressemble à ça. C'est-à-dire qu'on met très longtemps à entrevoir ça. On met extrêmement longtemps. Parce qu'au début, on est totalement parasité par des tas de concepts et puis par l'idée qu'il faudrait faire ça. Parce que tel maître l'a fait, parce que tel peintre l'a fait, parce que etc., etc. Et le parcours, je pense que le parcours, c'est ça. C'est pour arriver à la fin telle que c'était au début.
Est-ce que vous pouvez nous parler du mouvement de la forme, de ce qui vous intéresse? Vos sculptures, elles sont toujours en torsion. Enfin, toujours. Et est-ce que vous pourriez nous parler de la façon dont vous mettez en forme et comment vous traduisez cette forme sinueuse. Est-ce qu'il y a des mouvements dans vos sculptures?
Non, je pense qu'il n'y a pas de mouvement. Mais ce qui est vrai, ce que je pense que vous ressentez, il y a chez moi la haine de l'horizontale et de la verticale. Ce sont deux choses que je n'aime pas. Je n'aime que la courbe, comme je n'aime que le modelé, comme je n'aime que ce qui passe. Je n'aime que les formes qui passent les unes dans les autres. Je n'aime pas les formes stables, j'aime être dans l'instable, j'aime être dans le passage d'une forme à l'autre. Mais ça, c'est encore très proche de ce que je vous disais sur le modelé de Léonard. Ce qui m'intéresse, c'est cette ombre et cette lumière qui n'arrêtent pas de se moduler. Et pour que l'ombre et la lumière n'arrêtent pas de se moduler, on est forcément dans la ligne sinueuse. On ne peut pas être dans la ligne droite. Le modelé, par nature, il est toujours dans la courbe.
Comment vous travaillez avec la lumière ? Sur vos sculptures en gestation, j'allais dire. J'imagine que vous regardez comment la lumière tombe sur vos sculptures, pour avancer, pour ponctuer le regard.
Bah oui. Alors, ce qui est marrant avec la sculpture, parce que comme j'ai fait un peu la peinture, ce qui est très bizarre avec la sculpture, c'est que ça doit normalement pouvoir être vu sous toutes les lumières. Donc, si la forme est juste, normalement, quelle que soit la lumière, ça doit marcher. C'est ça. Une forme juste doit pouvoir accepter toutes les lumières. Mais ce n'est pas le cas toujours. Hein. Souvent, ça marche sous un angle et puis ça ne marche pas sous un autre. Mais ça devrait. Ça, c'est vrai que ça devrait.
Est-ce que vous séparez beaucoup votre travail de peinture de votre travail de sculpteur ?
Moi, quand j'ai fait la peinture, ce qui m'a fait faire la sculpture, c'est que je m'étais aperçu qu'avec la peinture, je travaillais comme en sculpture. Je me suis aperçu que je faisais de la sculpture en peinture. C'est pour ça que je me suis dit, pourquoi ne pas la faire en sculpture ? Ce serait peut-être plus simple. Et effectivement, pour moi, la peinture, mon abord de la peinture, c'est des plans qui avancent, c'est des plans qui reculent. Pour moi, la peinture, c'est ça. Sinon, ça m'ennuie. J'ai besoin de ça. Alors, effectivement, c'est cézannien. Moi, j'ai toujours approché la peinture, c'est comme ça. C'est des plans qui avancent et des plans qui reculent. Et la sculpture aussi, puis le dessin aussi.
Alors, comment vous vous situez dans le, on va dire, le paysage contemporain de l'art contemporain ?
Bah, je ne sais pas trop, moi, comment je me situe. Je ne sais pas où on me situe, je ne sais pas trop. En tout cas, je sais là où je ne me situe pas. Bien évidemment, je me situe comme extrêmement loin de toute pensée conceptuelle. Je dirais même que s'il y a un système pour moi, un système de l'œuvre, c'est un système de ne jamais être dans le concept. Si vous voulez, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du corps humain. Le corps humain n'est pas mon concept. Le concept du corps humain ne m'intéresse pas. Le concept d'une femme ne m'intéresse pas. Le concept d'Ève Dautin ne m'intéresse pas. Tous ces concepts ne m'intéressent en aucun cas. Le concept même de l'apesanteur ne m'intéresse pas non plus. Ce qui m'intéresse, c'est justement qu'est-ce qui va échapper au concept. Je pense que l'art contemporain, il est d'une certaine manière divisé en deux. Je pense qu'il y a la force du concept qui nous vient des surréalistes et qui a créé l'art conceptuel, qui est que l'œuvre serait à ce moment-là une sorte de chose qui effectivement dit quelque chose, donne un message à comprendre, fomenté par l'inconscient ou autre, mais un message, quelque chose qu'on dit. Et je sais que pour moi, j'ai toujours voulu éviter ça parce que ça ne m'intéresse absolument pas de dire quelque chose ni d'entendre ce que dit quelqu'un. Pour moi, si création il y a, j'ai besoin que ça soit tout à fait au-delà du concept. C'est-à-dire, ça commence à m'intéresser quand on est au-delà du concept, donc au-delà d'une pensée, au-delà d'une chose qui est dite, qui est communiquée. Donc c'est vrai que vous me demandez comment je me situe dans l'art, je me situe extrêmement loin du concept. Donc de l'art conceptuel aussi, qui est quand même fondé sur le concept. Mais je me sens aussi extrêmement loin d'un retour à la figuration et à une peinture classique. Je me sens extrêmement loin de ça parce que vous savez que dans l'art contemporain, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'un retour au métier serait souhaitable, qu'un retour au savoir peindre, au dessin. Alors, je ne me situe pas là-dedans parce que je ne pense pas que ce soit vrai. Je n'y crois pas du tout. Je ne crois pas que c'était mieux avant. Je ne crois pas que les ancêtres savaient mieux, bien qu'il y ait eu des très grands. Évidemment, il y a eu des très grands. Mais je ne pense pas que c'est une globalité et que avant, c'était mieux. Je ne le pense pas. Donc je ne pense pas à un retour nostalgique, je n'y crois pas. Donc je ne sais pas où je me situe. Je ne sais pas trop, mais je ne peux pas aborder le concept. Pour moi, s'il y a concept, et même concept plastique, parce qu'on peut dire, je veux dire, quand on dit l'art conceptuel, mais la peinture classique aussi est conceptuelle souvent. Faire une Madone, c'est conceptuel. Ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui est partout où règne le concept, je fuis, je n'aime pas. J'ai besoin de la respiration, de cette sorte de respiration énorme qui vient au-delà du concept, qui n'est pas non plus une expression instinctive, parce que ça ne m'intéresse pas non plus, cette expression instinctive de l'être, comme l'ont souvent cherché des peintres des années 50, par exemple. je ne sais pas, comme Riopelle, par exemple, ou comme de Staël. Cette respiration instinctive, naturelle de la trace de pinceau qui va exprimer même quelque chose de corporel du peintre ne m'intéresse pas du tout non plus. Donc mon lieu à moi n'est ni cette expression naturelle et instinctive qui a eu lieu par l'abstraction, ni l'expression dite, l'expression pensée, l'expression construite de toute peinture conceptuelle ou de l'art conceptuel de maintenant. Parce que finalement, Jeff Koons, ou je ne sais quoi, c'est fondamentalement conceptuel. C'est le même principe que de conceptualiser une Madone ou conceptualiser, le portrait d'un roi. Ou... On est dans un concept. La position artistique dans laquelle je me sens le plus proche, celle qui m'est le plus intime pour moi, c'est par exemple la position d'un peintre comme Rothko, dont la peinture n'est pas une expression immédiate de son ressenti. C'est une recherche évidente de quelque chose d'autre, mais qui ne passe pas par le corporel, qui ne passe pas par l'instinctuel, et qui ne passe pas non plus par le concept, parce qu'il y a une absence totale de concept, justement. Alors sa tentative, à lui, pour moi, c'est quand même la plus grande de l'art contemporain. C'est celle qui m'intéresse.
C'est dans ce sillage-là que...
Oui, sauf que moi, j'utilise un corps de femme, mais dans l'absolu, sa position à lui, pour moi, c'est pas très vieux, hein, Rothko, en plus. Pour moi, c'est la dernière grande position, celle dont je me sens le plus proche.
Vous vous êtes situé par rapport au, disons, dans le grand magma de l'art contemporain, pas trop par rapport au celui de la sculpture, si on veut rentrer dans le...
Moi, il y a des choses que j'ai aimées beaucoup en sculpture. Bon, évidemment, Giacometti. Mais il y a un autre que j'ai beaucoup aimé, c'est Segal, George Segal, l'Américain, que je trouve très intéressant aussi. C'est plutôt cette sculpture-là, moi, qui m'a... Et Brancusi, très très fort, Brancusi.
Dans votre atelier, il y a toute une partie qui est réservée aux livres.
Ah oui.
Les livres occupent une place importante.
Ah oui,
dans
oui,
votre
oui,
vie.
Moi j'aime beaucoup. Mais vous savez, moi, si j'avais pas fait la peinture ou la sculpture, j'aurais aimé écrire. C'est ce que je ferais si je faisais pas ça. C'est l'autre passion que j'ai et je crois que j'aimerais.
Vous avez beaucoup apprécié, on vous dit, d'écrire votre discours.
Ben oui, parce
même
que,
plus
ben
que
oui,
de faire
ben
votre
oui,
épée.
Oui, parce que c'est amusant d'essayer de clarifier ce qu'on pense, ce qu'on a à dire. Quand on vous le demande comme ça pour une occasion, il faut en profiter. D'habitude, personne ne vous demande jamais ce qu'on pense. Hein. Donc, on vous le demande, il faut sauter sur l'occasion. Mais oui, moi, j'aime bien. C'est une chose qui m'intéresse, oui.
Vous aimez lire tout, la littérature, les romans, la poésie. Il y a des domaines particuliers de... Il y a des écrivains qui vous accompagnent, comme des peintres vous ont accompagné.
Oui, bien sûr. Gérard en a parlé un peu dans son discours. Il a parlé de Pascal. Et c'est vrai que si j'avais le texte pascalien, par exemple, des pensées, pour moi, c'est, si j'avais à dire ce que je voudrais faire en sculpture, c'est ça que je voudrais faire. Je trouve que c'est d'une beauté...
géométrique.
Oui, mais c'est cette géométrie, justement, qui devient complètement déraisonnable, qui devient vertigineuse, qui devient... Et ça, c'est exactement la chose qui me passionne. C'est cet usage de la raison qui est poussé très loin jusqu'à ce que la raison elle-même fiche le camp parce qu'elle n'est plus capable de suivre. Je trouve que tout d'un coup, il intervient justement cette chose qui, pour moi, est beaucoup plus passionnante, où justement, il n'y a plus de concept. Et on a tout le temps ça chez Pascal, justement.
Est-ce que vous pourriez nous décrire votre épée d'académicien? Vous l'avez réalisée? Vous l'avez sculptée? Pouvez-vous nous la présenter?
Il y a des sculptures de moi, et puis il y a quelques petits dessins de mon père que j'ai mis tout autour.
Il y a quelque chose de gravé sur la lame ou... Non, rien. Aucun mot?
Non, rien du tout. Rien du tout. Non. Pas de concept, pas de symbole, pas de concept. Les mots sont des concepts.
Et puis, c'est une tête
Au sommet, il y a une tête. Et puis, à la base de la poignée, il y a des petites têtes qui s'entrecroisent. J'ai mis ça parce que j'ai commencé ma carrière avec une exposition où j'avais traité ce thème de deux têtes qui se rencontrent, des doubles portraits, quoi. Des têtes qui s'interpénètrent l'une l'autre. Voilà.
Donc ça, c'est ce que vous avez mis à la base?
Oui, et au sommet, il y a une petite tête qui est une des dernières que j'ai faites, alors je l'ai mis là.
Elle est en...
Elle est faite en cire et là, elle est en bronze.
Là, elle est en
bronze. Oui, tout est en bronze, là.
Merci, Pierre-Edouard, d'être venu nous parler de vous, de votre œuvre.
Ben de rien.
Y compris de votre épée d'académicien.
Voilà.
Merci beaucoup. Retrouvez le sculpteur Pierre-Edouard sur Canal Académie. Parler de ce qui compte à ses yeux dans sa sculpture, à travers sa vision d'Ève, figure métaphorique de la féminité qui hante l'artiste malgré lui. C'est dans Carrefour des Arts sur Canal Académie.